merci à vous deux.
Bonsoir.
Merci à toute l'équipe de Jour J, Céline Bonnet, Quentin Zulin, Bastien Robin et Jonathan Griveaux. Merci pour votre fidélité. Ciao.
Bonne nuit avec RTL.
RTL, avec vous toute la nuit.
RTL, il est 2h. 24 heures d'info, Rachel Sadodine.
Plusieurs centaines de policiers et gendarmes sont mobilisés dans le cadre de l'enquête sur l'attaque meurtrière d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure. Déclaration de la procureure de la République de Paris, Laure Bacquiau, qui a exprimé son soutien aux familles des deux agents pénitentiaires tués, l'un âgé de 52 et l'autre de 34 ans. Trois autres sont gravement blessés. Le détenu qu'il transportait, Mohamed Amra, 30 ans, déjà condamné à 13 reprises, est encore en fuite, tout comme ses complices qui ont ouvert le feu sur le fourgon pénitentiaire au niveau du péage d'Incarville. Nous les trouverons et ils paieront, a promis le Premier ministre Gabriel Attal. Son ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a demandé qu'une minute de silence soit respectée à 11h dans les prisons et les tribunaux. L'intersyndicale des établissements pénitentiaires appelle à une journée prison morte reconductible. Des agents pénitentiaires tués dans l'exercice de leurs fonctions, ça n'était pas arrivé depuis plus de 30 ans en France. Pour en parler, le ministre de l'Intérieur d'ailleurs, Gérald Darmanin sera l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40 dans la matinale d'RTL. Dans le reste de l'actualité, des mains rouges ont été taguées sur le mur des Justes à l'extérieur du mémorial de la Shoah à Paris. Emmanuel Macron dénonce une atteinte à la mémoire des victimes de la Shoah. Le chef de l'État qui promet une république inflexible face à, je cite, un odieux antisémitisme. L'actualité à l'international, en Géorgie, après l'adoption de la loi controversée sur l'influence étrangère, les États-Unis menacent de réévaluer leurs relations avec le pays du Caucase. Aussi appelée loi russe par ses opposants, elle pourrait être mise de côté par la présidente géorgienne. La Maison-Blanche dit espérer que la chef d'État utilise son droit de veto. En Ukraine, le gouvernement annonce des coupures de courant dans tout le pays après des bombardements russes. Le président Volodymyr Zelensky réclame des livraisons d'armes de toute urgence à ses alliés occidentaux pour faire face à l'offensive russe dans le nord-est du pays. L'armée de Moscou indique gagner du terrain dans la région de Kharkiv et revendique le contrôle d'un nouveau village. Le football, dans le championnat anglais, Manchester City profite de sa victoire 2-0 contre Tottenham pour reprendre la tête de la Première Ligue aux dépens d'Arsenal avant l'ultime journée. Manchester City qui tutoie le rêve d'un quatrième titre d'affilée, une série encore jamais réalisée en Angleterre. L'actrice Meryl Streep récompensée par une palme d'or d'honneur en ouverture du 77e Festival de Cannes. On revient sur cette cérémonie présentée par l'actrice française Camille Cotin dans la matinale avec notre envoyé spécial en direct de la Croisette, Stéphane Boutsock. Le temps est instable toute la journée entre nuages, éclaircies, averses, parfois orageuses, surtout dans le sud-est, de la grêle aussi l'après-midi sur le Massif Central et le Grand Est, de la neige à 1900 mètres sur les Pyrénées, un temps plus calme avec même quelques éclaircies entre les Hauts-de-France, la région parisienne et sur le Roussillon. Les températures sont en baisse, comptez 9 degrés à Cherbourg, 10 pour Toulouse, 11 à Bordeaux, 12 degrés pour Lyon et Montpellier, 13 à Paris et Nancy, 15 à Nice. Les courses, elles ont lieu à Vincennes. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 13, l'As, le 12, le 6, le 16, le 3, le 14 et l'outsider de RTL, l'As Fashion Touch. Attention, le 9, Enemy est non partant.
RTL, 24 heures d'info.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
La rediffusion.
Même étant innocent, je suis persuadé que je serai condamné parce qu'il y a eu trop d'accusations fausses, de faux témoignages. Si j'étais condamné, de toute façon, je mettrais fin à mes jours immédiatement.
Bonjour. Impossible de trouver une photo sur laquelle l'adjudant-chef Pierre Chanal affiche un visage heureux. Il était l'homme qui ne souriait pas, ne parlait pas, n'écrivait pas, mais dont on va dire qu'il violait et tuait. À la fin des années 80, sa silhouette va ainsi apparaître derrière les disparitions et les meurtres de 8 jeunes gens. Des appelés du contingent qui faisaient leur service militaire dans la Marne et d'un autostoppeur irlandais qui voyageait dans le coin. L'adjudant-chef Chanal, qui n'avait pour seule famille que l'armée, va alors être présenté comme l'étrangleur de Mourmelon. Chanal s'est donné la mort juste au moment de l'ouverture de son procès. Sa condamnation n'a jamais eu lieu, mais auparavant, avant. Les enquêteurs, les juges, psychiatres et psychologues avaient eu tout loisir de se pencher sur le personnage. Que dit son dossier ? Qu'a raconté cet homme aux rares témoins qui l'ont rencontré et interrogé ? Ont-ils vu en lui un tueur en série ? Question posée aujourd'hui à nos invités.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire de Pierre Chanal. À l'été 1988, cet adjudant-chef apparaît derrière le viol d'un autostoppeur en Saône-et-Loire. Un mode opératoire qui ressemble étrangement à celui d'un violeur et meurtrier qui sévit depuis 8 ans dans une autre région, la Marne. Mardi 9 août 1988, à 17h45, deux gendarmes en patrouille aperçoivent un combi Volkswagen de couleur verte stationné dans un chemin de terre, au milieu des vignes de Bussière, village à une vingtaine de minutes de Mâcon. À l'approche des gendarmes, le camping-car démarre. Il est rapidement rattrapé. Le conducteur, en short et débardeur, physique longiligne et sportif, est le dénommé Pierre Chanal, 41 ans, adjudant-chef, actuellement en poste à la caserne de cavalerie de Fontainebleau. Il est en permission longue durée, depuis une semaine. Il se balade sur les routes de France. À travers les rideaux du combi, un gendarme distingue un homme allongé sur la banquette arrière, sous un duvet. « C'est un autostoppeur qui se repose », dit Chanal. Les gendarmes demandent à l'homme de se lever, mais il est entravé. Des chaînettes au poignet reliées à une cordelette en nylon qui passe dans le dos et en serre le cou. Pierre Chanal évoque un jeu sexuel. Le passager est un Hongrois âgé de 21 ans, Palace Falvey. En anglais, il répète que le conducteur veut le tuer et le retient prisonnier. Les deux hommes sont conduits à la brigade de Mâcon. Un médecin constate que le jeune autostoppeur a été violé. Il dit avoir été pris la veille en stop, puis séquestré dans le fourgon. Selon lui, son agresseur est un sadique qui avait tout prévu. Il savait ce qu'il faisait. Je suis sûr que ce n'est pas la première fois qu'il agissait ainsi. Il m'aurait tué si les gendarmes n'étaient pas arrivés, assure Palace Falvey. En garde à vue, Pierre Chanal assure qu'il n'a rien prémédité du tout. Il a fait monter l'autostoppeur au péage de Mâcon Nord. Ce dernier lui a fait comprendre qu'il était homosexuel et qu'il était d'accord pour une relation. Le jeune Hongrois a suggéré lui-même cette mise en scène sadomasochiste dans la camionnette. Il était également d'accord pour être filmé avec le caméscope. Palace Falvey décrit une relation forcée. Il était excité, comme fou, avec des yeux exorbités. Je pensais ma dernière heure arriver, témoigne-t-il. L'adjudant-chef Chanal est interrogé sur l'utilisation du fil de nylon relié à des chaînettes. Il dit avoir appris cette technique destinée à ligoter des prisonniers à l'armée. Un procédé qui remplace la corde à piano utilisée par les commandos pour étrangler par derrière les sentinelles. Chanal dit qu'il se promène dans toute la France avec son combi. Il ne se souvient pas bien des routes qu'il a empruntées car, dit-il, il est fou. Jeudi 11 août, Pierre Chanal est mis en examen pour viol, séquestration, il est écroué. Mais pour les gendarmes, l'affaire n'est pas terminée. Ils sont frappés par le mode opératoire, la séquestration, l'étranglement, qui correspond à celui d'un individu qui sévit depuis quelques années autour du camp de Mourmelon, dans la Marne. Depuis 1980, 8 jeunes hommes ont été portés disparus ou retrouvés morts dans ce secteur. Un triangle maudit entre Mailly, Chalon et Reims. Les disparus de Mourmelon pratiquaient tous l'autostop. Un dernier corps a été découvert il y a seulement un an, dissimulé dans un bosquet, dans l'Aisne. Un jeune Irlandais, Trevor O'Keefe, 20 ans. Il était venu travailler en France, il était sur le chemin du retour. En Grande-Bretagne, il se déplaçait bien sûr en stop. Il a été étranglé par l'arrière, avec un lien. Le sillon de strangulation pourrait correspondre au fameux système de corde à piano retrouvé dans le combi Volkswagen. Pierre Chanal a effectué une grande partie de sa carrière à Mourmelon. Il apparaît comme le suspect numéro 1. Les enquêtes centralisées à Chalon en Champagne sont relancées. Mais encore faut-il des preuves pour le confondre. Pour le jeune Hongrois, il jure que c'était la première fois qu'il ligotait un de ses partenaires. Au sujet des disparus de Mourmelon, il dit en avoir entendu parler des déserteurs, selon lui. Et pour aller plus loin, il va falloir apprendre à décrypter le fonctionnement de cet homme qui ne parle que de manière utile. Il est peu bavard, il n'a jamais été cité jusque-là dans des affaires de disparition. Dans la suite de l'heure du crime, on va voir plus précisément quel portrait psychologique du tueur va être esquissé. Et on va voir comment l'enquête va se rapprocher finalement de l'adjudant-chef. Revenons pour le moment à 400 kilomètres au sud de Mormelon. On est loin, loin de la Marne et de ce camp militaire avec ce village de Bussières. Bonjour maître Gérard Chemla.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime à RTL. Vous êtes avocat au barreau de Reims. Dans cette affaire Chanal, l'affaire des disparus de Mormelon, vous êtes avocat des parties civiles et vous avez coécrit le livre que je présente ici, qui s'appelle Chanal, la justice impossible, avec maître Vincent Duretête, un de vos confrères. Livre paru en 2004 chez Michalon, où vous racontez à la fois toute cette histoire de Chanal et puis l'échec qu'a été la mort de Chanal pour les familles, parce que ça a été un traumatisme, on va y venir un petit peu plus tard, maître Gérard Chemla. Alors tout de suite, on peut dire que finalement, les enquêteurs, quelque part, ils ont de la chance, parce que ces disparitions, ces meurtres, ça fait une dizaine d'années qu'ils perdurent autour du camp de Mormelon. On arrête Chanal grâce à un banal concours de circonstances.
On l'arrête par hasard, et en fait, on l'arrête parce que son combi est vert, qu'on est à côté d'un endroit où se construit une centrale nucléaire et qu'on craint des manifestations d'écologistes.
Ah, on pense que c'est un écolo en colère.
On pense que c'est un écolo, et le combi redémarre doucement, très doucement, quand les gendarmes arrivent, et c'est ça qui met la puce à l'oreille à l'adjudant Genet, qui décide de le contrôler. Et quand on le contrôle, il dit « je suis de la maison », il n'est pas plus excité que ça, simplement, l'adjudant va deviner qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Et c'est là où tout commence.
Alors là, c'est là où tout commence, ce jeune autostoppeur, c'est un Hongrois, hein, Palas Falvé. L'issue allait être fatale pour lui, c'était une évidence.
C'était une évidence. Il y avait dans le combi, il y avait toute la vie de Chanal. C'est-à-dire que vous aviez des cassettes vidéo, des cassettes audio, du linge de corps, vous aviez tout. Et vous aviez surtout des chaînes, des cordes, des anneaux qui étaient passés dans le véhicule à l'arrière pour ligoter et maintenir quelqu'un. Et à l'évidence, ça n'était pas une scène qui se produisait pour la première fois, puisqu'il y avait tout cet attirail qui était là. Ce jeune homme était ligoté avec une chaînette autour du cou. S'il bougeait, il s'étranglait. Il a fallu qu'il se secoue pour que le combi bouge et que le gendarme imagine qu'il y avait quelqu'un. Et je rappelle que nous n'avons jamais retrouvé un partenaire sexuel vivant de Pierre Chanal, à part Palas Falvé.
Oui, c'est ça, on a trouvé deux corps, je crois, hein, dans cette histoire.
Vivants. On a trouvé des morts.
Des morts, des morts.
Pas beaucoup, on a trouvé deux.
C'est ça, mais c'est le seul vivant, effectivement.
C'est le seul vivant.
C'est le rescapé, donc sa parole, elle compte évidemment beaucoup. Encore une question, maître Gérard Chemla, parce que ça m'a beaucoup frappé dans ce que dit ce jeune autostoppeur. Il dit, Chanal, et pourtant, il est victime, lui, mais il dit, il avait tout prévu, Chanal. Il n'en était pas à son coup d'essai. C'est Falvé qui dit ça, ce ne sont pas les gendarmes.
Hein. Oui, parce que déjà, Falvé le voit passer, il fait du stop à l'entrée de l'autoroute. Il le voit passer une première fois en milieu d'après-midi. Il voit ce combi avec un type qui roule à 60 à l'heure, pas vite, qui tape sur le volant et qui est en train de chanter quelque chose. Ça a l'air d'être assez martial. Et il attend jusqu'au soir et continue à faire du stop. Et le véhicule repasse une deuxième fois. Et c'est en repassant la deuxième fois dans l'autre sens qu'il va faire monter Palas dans le véhicule. Il l'emmène sur des petites routes de campagne. Il le maîtrise très soudainement. Instantanément, il va l'attacher derrière, et puis s'ensuit une espèce de protocole, alors qui n'ira pas jusqu'au viol, parce que Chanal n'a pas été physiquement capable de violer la personne qui était séquestrée, mais il y aura des scènes qui seront filmées.
Et des supplices sadiques, tout simplement.
Voilà, on est dans de la torture à visée sexuelle, et dont il va garder des souvenirs. Hein, Le film,
c'est quand même incroyable. Bonjour Jean-Luc Ployer.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous également dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes expert psychologue auprès des tribunaux. Évidemment, on vous connaît bien. Votre nom, il est cité dans beaucoup, beaucoup d'affaires. Vous avez expertisé Pierre Chanal. Votre parole nous est très précieuse aujourd'hui parce que vous êtes le dernier psy, comme on dit, à avoir vu Chanal, l'avoir vu dans sa prison. Vous allez nous en parler. On va y venir à ce moment qui est important. Je cite votre dernier livre, La passion du mal, coécrit avec Mathieu Livoreil aux éditions Mon Poche, c'est ça, hein, aux éditions Mon Poche, oui, c'est ça. Et donc, Jean-Luc Ployer, alors on dit que Chanel, il parle pas beaucoup, mais en fait, là, devant les gendarmes, il a presque tout de suite une attitude de réflexe de défense. Il va dire, mais moi, c'était la première fois que je ligotais quelqu'un, j'ai pas voulu lui faire du mal, il était consentant, etc. Il y a déjà un discours qui est mis en place.
Oui, c'est quelqu'un qui est très structuré sur le plan criminel, hein, si on peut dire. Il a l'habitude, en quelque sorte, il est pas du tout déstabilisé par la visite des gendarmes. Hein. C'est quelqu'un aussi qui est militaire, qui a appris énormément de choses, notamment au niveau des... à résister, par exemple, à des interrogatoires commando. Mm-hmm. Il le fait très bien, donc ça lui pose aucun problème.
Et on a dit que Chanal, il n'a pas de famille, presque. Il a sa sœur, on verra que sa sœur joue beaucoup hein, dans la vie de Chanal, c'était presque sa seule confidente. Mais sa famille, c'est l'armée.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a une famille comme tout le monde, hein, mais une famille de substitution qui est l'armée très tôt. Hein, d'ailleurs, lorsqu'il était pas bien dans sa famille, il s'échappait un petit peu dans le jardin, etc. Il regardait des avions décoller et effectivement, il voulait absolument être instructeur parachutiste. Donc, il s'est intégré dans l'armée.
Alors, vous nous direz ce qu'il vous a raconté, Chanal, mais déjà, juste, physiquement, il ressemble à quoi? Il est impressionnant?
Ah oui, il est tout à fait impressionnant. Moi, la première fois que je l'ai vu trois fois, monsieur Chanal. Hein. La première fois que je l'ai vu à peu près deux minutes. C'est quelqu'un qui, physiquement, est extrêmement, j'allais dire, abouti, entre guillemets, très construit. Il prend énormément soin de son corps, ça c'est un trait de sa personnalité.
Il s'entretient beaucoup.
Il s'entretient
sportivement,
énormément.
Sportivement, c'est ça?
Sportivement. La première fois que je l'ai vu, ça a duré deux minutes, il m'a demandé mon nom, mon prénom. Il a donné son nom, son prénom à lui, son numéro de matricule, puisque c'est un militaire. Et il m'a dit c'est terminé. Moi je l'ai vu après le procès de Chalon-sur-Saône, où il avait pris 10 ans de réclusion criminelle, où il avait parlé à des experts, et manifestement, ce qu'avait déclaré à la barre les experts lui avait pas plu, quoi. Donc il ne voulait plus parler.
Ouais, c'est ça, donc il s'était renfermé, mais enfin, c'est pas quelqu'un de très bavard. Maître Chemlin, une question pour vous. Tout de suite, les gendarmes de Saône-et-Loire, eh ben, ils ont un peu du flair, parce qu'ils font le lien avec Mourmelon.
On le cherchait depuis tellement longtemps, et on cherchait depuis tellement longtemps, ce personnage-là, un type solitaire, militaire, puissant, avec des attaches avec Mourmelon, en tous les cas, le triangle, on l'appelait le triangle
c'est
de Mourmelon, qui soit homosexuel, qui le cache. Et donc, si vous voulez, quand on tombe sur cette scène, c'est instantanément que les gendarmes de Mâcon téléphonent à la section de recherche de Reims, qui avait laissé des annonces partout en expliquant qu'on cherchait ce profil-là.
Le militaire va être jugé pour le viol du jeune Hongrois. Il demeure le suspect numéro 1 pour Mourmelon. Pierre Chanal, les ultimes confidences. Je me suis senti un peu coupable. J'ai préféré lui passer une chaîne avec un mousqueton pour qu'il ne s'échappe pas. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights. It was just you and I. When something dies doesn't mean that it's over. We're not like them, we don't have to be cold as ice. We could be you and I. So take my hand for the last time and find my eyes with yours. I'm all out of fight. My heart will always know your name. I'm all out of love. But look at all the love we made. I'm all out of light. Oh, babe, it's killing me to say. I'm all out of love. I'm all out of life. I'm all out of fight. We were two broken parts from the same junkyard, battered and bruised, and we tried so goddamn hard to be you and I. I'm proud of us, babe, 'cause we held through the pain, and when everything hurt, we still ran through the
But it shouldn't be this hard. I'm all out of fight. My heart will always know your name. I'm all out of love. But look at all the love we made. I'm all out of life. Oh, baby's killing me to say. I'm all
présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Heure du crime, consacrée aujourd'hui à la trajectoire de Pierre Chanal. À l'été 88, cet adjudant-chef discipliné est arrêté pour le viol d'un autostoppeur. Le profil du militaire inquiète. Il pourrait être derrière l'affaire des disparus de Mourmelon. 8 jeunes hommes volatilisés ou retrouvés étranglés. Lundi 22 octobre 1990, Pierre Chanal, 44 ans, regard bleu acier, crâne quasiment rasé et visage taillé à la serpe, est devant la cour d'assises de Saône-et-Loire à Chalon-sur-Saône. Celui qu'on affuble de tous les surnoms de Rambo, moine soldat, doit s'expliquer sur les 19 heures de séquestration imposées au jeune autostoppeur hongrois Palas Falvé. Il réfute le viol, parle de rapport consenti. Au soir des premiers ébats, il dit s'être senti certes un peu coupable. Monsieur Falvé était fâché. Pour avoir plus de chances de me réconcilier avec lui, le lendemain, je lui ai passé une chaîne avec mousqueton pour la nuit afin qu'il ne s'échappe pas, dit-il. Le psychiatre décrit Chanal comme une personnalité compulsive, obsessionnelle et sadique. Il a une sexualité homosexuelle à éclipse et est adepte du voyeurisme. Au camp de Mourmelon, il filmait les jeunes appelés nus sous la douche. Je n'ai jamais été amoureux, a-t-il confié à un psychologue. Il est condamné à 10 ans de prison. Jeudi 15 novembre, 8h45, un mois après sa condamnation, Pierre Chanal est en garde à vue dans l'affaire de Mourmelon. Les gendarmes ont prévu 660 questions. Tout porte à croire qu'il soit le tueur qui sévit autour du camp militaire depuis janvier 1980. Deux ans avant l'arrestation, l'expert psychologue Jean-Luc Ployer a été contacté par le chef de la section de recherche de Reims pour établir un portrait de ce prédateur insaisissable. Jean-Luc Ployer avait émis l'hypothèse qu'il puisse s'agir d'un militaire, un sous-officier frustré, solitaire, familier des techniques commando, qui s'occupait des jeunes recrues. Le portrait, en creux, avant l'heure, de Pierre Chanal. En garde à vue, il est interrogé sur ses trajets aux dates des disparitions. Il y a un trou dans son emploi du temps pour l'enlèvement du jeune Irlandais Trevor O'Keefe. Il dément l'avoir agressé, puis il cogne sa tête contre le bureau. Il hurle « J'en ai marre de ces conneries, je ne réponds plus, j'en ai rien à foutre de vos questions ». La garde à vue est levée, mais l'enquête se poursuit. Il est établi qu'à chaque disparition, l'adjudant-chef n'était pas en manœuvre avec le 4e régiment de dragons. Il était en permission. En dépit des doutes, des perquisitions, des recherches, aucun indice accablant n'est découvert contre Chanal. Pas de preuves formelles retrouvées, se désole un enquêteur. Mercredi 23 juin 1993, le professeur de génétique Jean-François Muller dépose son rapport. Après 3 ans de recherche, il a isolé un poil retrouvé dans le combi de Chanal qui correspond à un disparu de Mourmelon, Patrick Gache, 20 ans, évaporé lors d'une permission le 30 avril 87. Il avait quitté le camp à pied, personne ne l'a jamais revu. 30 juin, la juge de Chalon en Champagne met en examen Pierre Chanal pour 6 séquestrations et assassinats entre 80 et 87. Le cas d'Olivier Donner, jeune appelé du contingent, rejoint la liste. Grâce aux avancées de l'ADN, les traces de Patrice Denis, Patrick Gache, Pascal Sergent sont établies. L'avocat de Chanal dénonce un dossier fragile, un maintien en détention abusif. Le militaire, qui a tenté de se suicider, est placé sous contrôle judiciaire. Il va résidait chez sa sœur, Simone, près de Saint-Étienne. Un septième juge fait alors réexaminer tous les scellés. 457 poils analysés, 22 ADN isolés, 5 ans d'enquête. Chanal est renvoyé aux assises pour assassinat et séquestration de 3 victimes, Patrice Denis, Patrick Gache et Trevor O'Keefe. Et évidemment, plus de 20 ans après le premier disparu de Mourmelon, l'appelé du contingent Patrick Dubois, 19 ans, ben Pierre Chanal va comparaître aux assises pour cette histoire qui semblait jusque-là impossible à résoudre. L'adjudant-chef a toujours nié, il élude sa responsabilité. Et on va voir évidemment ce qui va se passer pour la suite. Est-ce qu'il va être jugé, cet homme? Comment va-t-il réagir à l'annonce de cette obligation de passer devant les assises? On va parler pour l'instant de cette enquête interminable et difficile aussi. Maître Gérard Chemla, avocat à Reims, et vous êtes avocat dans cette histoire des parties civiles. Je rappelle votre livre « Chanal, la justice impossible », écrit avec maître Vincent Duretête et paru en 2004 chez Michalon. Pas facile finalement, parce que vous le disiez tout à l'heure, Chanal c'est le suspect parfait, il coche toutes les cases effectivement qu'on peut dire que c'est bien lui à Mourmelon qui a fait le coup, il n'y a pas d'autre suspect possible, mais là on dit il n'y a pas de preuve, c'est compliqué.
C'est le suspect de l'évidence, mais il n'y a pas de preuve matérielle. Pourquoi? Parce qu'on est à une époque où il n'y a pas de traces numériques, pas de téléphone portable, pas de carte de crédit, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas non plus de traces d'ADN, puisqu'on n'est pas capable d'analyser, on a trouvé des traces de sperme sur ces draps, on a été incapable de les analyser, on a réussi à définir le groupe sanguin du propriétaire, mais ça ne sert à rien. Le groupe sanguin, c'est extrêmement banal et pas discriminant. Et quand l'ADN apparaît, on va rechercher les draps pour les analyser, et à la place des taches, on trouve des trous. C'est-à-dire qu'on a détruit les preuves dont on pouvait disposer. Et effectivement, on est sur une enquête. Si on n'a pas les aveux, et si on ne vient pas considérer que les crimes se prouvent l'un par l'autre, c'est-à-dire que celui qui est coupable de ce qui est arrivé aux Hongrois est aussi nécessairement coupable des autres, avec des éléments complémentaires, la présence sur place, tous ces éléments-là, eh bien, on n'arrivera pas à trouver de preuves formelles.
Et alors, il y a cette première apparition, elle est très importante, de Chanal à ce premier procès, j'ai envie de dire, entre oui. guillemets, hein, celui de l'agression de l'autostoppeur hongrois, il se défend. Il n'a rien fait. Alors, oui. Encore une fois, pour quelqu'un qu'on dit mutique, refermé sur lui-même, etc., il a de la puissance.
J'y suis allé à ce procès parce que je voulais Bien voir sûr. Le personnage. Et Chanal s'exprime assez normalement. Les seules fois où il va réagir d'une façon étonnante, c'est quand on aborde des questions liées à la sexualité, à la sienne, à celle de sa mère dont il avait été le témoin. Et là, on voit quelqu'un qui, tout d'un coup, est des tics, se met à gesticuler
malgré lui. Il se braque.
Il est méconnaissable. Il va avoir des tics sur le visage, des mouvements de son corps. Sinon, il s'explique. Alors, il s'explique pas dans des détails extraordinaires. Il vient dire, il était consentant. Nous sommes tous les deux homosexuels. Il s'agit d'un jeu. Et globalement, vous n'avez pas d'autres preuves. Et en fait, il va même aller plus loin, il va dire « Si je suis là, c'est à cause de l'affaire des disparus, parce que comme il y a les disparus, on pense que c'est moi qui suis coupable, et on vient me juger pour ça, sinon on ne m'aurait jamais jugé.
» Et c'est quand même un sacré retournement de situation, il faut savoir. Vos assises, c'est jamais simple, ce genre d'attitude.
Il faut bien comprendre que ce type de personnage, c'est quelqu'un qui ne perd pas le contrôle.
Oui.
C'est un vrai tueur en série, hein. C'est-à-dire qu'il reste toujours avec la main mise sur les événements. En tous les cas, il essaie de le reprendre tout le temps.
Donc c'est son procès et c'est lui qui veut le contrôler, on a bien compris.
Voilà.
Hein, effectivement. Jean-Luc Ployer, vous êtes expert psychologue auprès des tribunaux et vous êtes le dernier à avoir été, le dernier psy à avoir expertisé Pierre Chanal, votre dernier livre, La Passion du Mal, coécrit avec Mathieu Livoreil, qui est sorti aux éditions Mon Poche. Alors, bravo Jean-Luc Ployer d'abord, parce que quand Chanal n'est pas encore dans le viseur des enquêteurs, les gendarmes vous disent, venez nous aider quand même, essayez de dresser un petit peu le profil de cet homme. Donc vous allez aller voir les gendarmes et vous allez leur dire ce que vous pensez de ce possible coupable. Personne ne sait que c'est Chanal à l'époque. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette réflexion? Parce que vous le décrivez, on a l'impression de voir Chanal à travers ce que vous dites.
Oui, écoutez, moi, c'est le directeur d'enquête qui, effectivement, était perdu. Hein. Ils avaient fait des centaines et des centaines de démarches, etc. Ils étaient un petit peu perdus. Pour l'armée, c'était des déserteurs, en tous les cas au niveau des victimes potentielles.
Et c'était... puis l'armée n'avait pas envie d'avoir un scandale, etc.
C'est très compliqué pour qu'un militaire et un gendarme, pour qu'un gendarme enquête dans l'espace militaire, c'est pas simple du tout, en tous les cas à l'époque. Et donc il m'a demandé effectivement de déterminer ce qu'on appellerait maintenant un profil.
Oui, mais à l'époque on ne parle pas de profilage.
Donc effectivement je suis rentré à mon cabinet, j'ai pris une feuille de papier, j'ai divisé en deux. Alors au niveau du profil des victimes, c'était relativement simple, puisque il m'avait montré quelques dossiers. Effectivement c'était des jeunes appelés, en règle générale au niveau de leur parcours social quand même, un petit peu compliqué, hein, donc qui s'exposaient un petit peu, et qui avaient comme ça, qui étaient en recherche d'un héros en quelque sorte. Immature également au niveau de la sexualité, pas très orienté encore, hein, ils ont 17, 18, 19 ans. Donc ça c'est une première chose. Par contre pour l'auteur ou les auteurs, je savais pas du tout. J'ai pris la décision, comme ça, par hypothèse de travail, hein, déterminer que c'était une personne, donc un tueur, en quelque sorte. Hein, et j'ai déterminé 7 ou 8 critères, dont, effectivement, au niveau de la personnalité, j'avais une petite expérience quand même criminelle déjà, et je m'étais rendu compte quand même que tout ce qui est domaine de l'assassinat, etc., c'était quand même avec une problématique autour de la sexualité. Donc je l'ai mis en exergue par rapport à ça. Milieu militaire, milieu d'hommes, donc homosexualité. Homosexualité refoulée, sadisée, certainement au niveau du passage à l'acte, si vous voulez. Et puis, au niveau de la personnalité, quelqu'un de très organisé. Et j'avais fait moi-même mon service militaire quelques années auparavant. Et je m'étais rendu compte que le grade d'adjudant-chef, c'est un grade, j'allais dire, qui passe sous les radars. C'est l'angle mort.
C'est les grades intermédiaires, c'est ça?
Oui, c'est hein? ça. C'est ni du côté des officiers, ni du côté des hommes de troupe. Donc, il avait une certaine liberté, en fait, il était très peu contrôlé.
Et vous dites ça aux enquêteurs, évidemment.
Complètement.
Vous leur donnez, alors c'est très étonnant, parce qu'effectivement, ce portrait qui sort de nulle part, il va ressembler étrangement à Chanal. Juste un petit mot avec vous, Maître Gérard Chemla. Je le disais, renvoyé aux assises pour 3 cas, pourquoi pas davantage dans Bromelon? Les cas sont prescrits, c'est ça?
Il avait changé de voiture.
Ah.
Parce qu'en fait, on l'a renvoyé sur les poils qu'on a retrouvés dans le combi. Et comme le combi, il ne l'avait que depuis 1985 et qu'il n'y avait eu que 3 disparitions depuis 1985, on a retrouvé des poils que des 3 derniers disparus.
Et la première voiture n'a pas été retrouvée.
Et la première voiture.
Elle avait été détruite.
Elle avait été détruite.
Le militaire redoute ce procès qui sera pour lui celui du déshonneur.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
J'attends que l'affaire avance. Moi, ce que je veux, c'est la vérité. Les corps de nos enfants, où sont-ils? S'ils sont morts, au moins, on devrait avoir la chose d'avoir les corps. Mais nous avons que la photo de nos enfants dans la maison. Je suis au bout du rouleau. De lutter comme ça pendant 10 ans, tenir tête à tout le monde, ben, vous savez, c'est très dur. Hein.
Retour aujourd'hui dans l'heure du crime avec l'affaire Pierre Chanal, soupçonné d'être derrière les disparitions et les meurtres de 8 jeunes gens dans les années 80 autour du camp de Mourmelon. L'adjudant-chef attend en 2003 d'être jugé, supportant de plus en plus mal cette échéance qu'il a vu arriver à grands pas. Mardi 13 mai 2003, 23 ans après le premier disparu de camp de Mourmelon, Pierre Chanal, 56 ans, est attendu devant la cour d'assises de la Marne à Reims, jugé pour 3 assassinats sur 8 victimes recensées. Ceux du jeune Patrice Denis, de l'appelé Patrick Gache et de l'autostoppeur Trevor O'Keefe. Mais Pierre Chanal ne se présente pas devant les juges. La veille, il a été retrouvé inerte, non loin de la maison de sa sœur Simone. Tentative de suicide après avoir ingéré des sommeils. Le procès est renvoyé. Lundi 4 août, Pierre Chanal, qui ne voulait plus voir aucun expert, accepte la visite du psychologue Jean-Luc Ployer à la prison de Fresnes. Il évoque son enfance, un père brutal, une mère soumise, au cours de laquelle personne ne lui a montré de l'affection. Aucune émotion dans ce récit froid et rigide, à l'exception furtive de l'évocation de ses neveux, pour lesquels, dit-il, il est un peu tonton gâteau. Il parle volontiers de son parcours militaire, mais dès que les questions du psychologue se font plus difficiles, il s'interrompt. « Je ne suis pas bien, on va arrêter, j'ai le voile noir », dit-il. Sur la question de la sexualité, il indique « On n'en parle pas, point, barre. Un mur infranchissable », note l'expert. 28 août, deuxième visite du psychologue, Chanal est faible, en grève de la faim. Il pèse moins de 60 kilos. Ils m'ont remis en prison pour que je mette pas fin à mes jours. Mais même ici, je peux mettre fin à mes jours si je le décide. Et dans cette heure du crime, qui est avec nous, c'est Jean-Luc Ployer, expert psychologue auprès des tribunaux. Jean-Luc Ployer, je l'ai dit, vous allez aller à Fresnes rencontrer ce Pierre Chanal que vous aviez vu très brièvement une première fois. Il vous avait presque mis à la porte en disant qu'il avait rien à vous dire. Là, il se livre un peu plus. Il y a quelque chose, vous dites un mur infranchissable, et ça c'est important parce que il y a un domaine où vous pouvez pas aller. Il y a pas de réponse.
Totalement, c'est totalement inabordable. C'est une espèce de forteresse.
La sexualité, hein.
La sexualité chez lui, en tous les cas, n'est pas communicable. Il passe à l'acte, hein, sexuellement, de façon très très sadique, très perverse. Hein, ça, c'est évident. Mais en même temps, il en parle pas. C'est à la fois, j'allais dire, tout à l'heure on parlait de contrôle, mais c'est aussi quelqu'un qui est dans la toute-puissance, hein, comme beaucoup de tueurs en série potentiels. Hein, ils sont tous comme ça. C'est eux qui décident du moment où. C'est pas l'expert qui est en face de lui. Et puis, manifestement, il y a aussi une espèce de honte, et c'est pas partageable. Hein, ça veut dire aussi que c'est redoutable. Hein, ça veut dire aussi qu'il y a pas de les victimes potentielles ne sont pas des sujets. Ce sont des objets de fantasmes.
Pourquoi est-ce qu'il accepte de vous parler à vous?
Alors, j'ai été envoyé par la présidente de la cour d'assises, hein, à Reims, hein, qui peut-être 2-3 mois avant le procès. Il avait refusé tous les experts suite à son procès de Chalon-sur-Saône. Pour quelle raison il m'a parlé, j'en sais rien. En tous les cas, je lui ai jamais dit que je l'avais profilé quelques années auparavant, vous comprenez bien.
Là, il se serait refermé tout de suite.
Je sais pas. J'ai hésité à un moment donné, mais je lui ai jamais dit. En dehors de ça, il a quand même accepté. La première fois que je l'ai vu, en début de mois, je l'ai vu à peu près 1h30, 2h. C'est quand même assez considérable par rapport à Pierre Chanal. La deuxième fois, je l'ai vu qu'une demi-heure, puisqu'il était en fauteuil roulant. Il était en grève de la faim. Et je ne savais pas, d'ailleurs, il était aussi en phase terminale de cancer. Hein, mais ça, je ne le savais pas.
Il parle comment, Chanal? Il s'exprime comment? Est-ce qu'il parle lentement? Est-ce qu'il a une voix claire?
Il a un langage extrêmement clair, mais qui est complètement évacué de toute forme d'émotion. Absolument. Il n'y a aucune posture, aucune réaction, aucune
attitude. C'est de la mécanique.
Il parle, j'allais dire, comme un robot, en quelque sorte. C'est complètement désaffectisé.
Maître Jérôme Chemla, alors vous défendiez vous défendez toujours les parties civiles dans ce dossier, avocat au barreau de Reims. Il dit quelque chose qui est troublant, Chanal. Il dit, ils m'ont remis en prison, mais moi, je peux me suicider quand je veux. Comment vous analysez ça, vous? C'est une espèce de chantage, de pression?
Il a décidé, depuis l'origine, que si on le jugeait pour l'affaire des disparus de Montmelon, il se suiciderait.
C'est clair, c'est son contrat.
Il l'a dit. Il l'a dit, quand il sort de prison, il va rencontrer deux journalistes, lui qui n'est pas bavard, il accepte des interviews, et il l'explique aux journalistes, et d'ailleurs, avant le procès, ça va tourner en boucle sur toutes les radios et toutes les antennes, c'est-à-dire que 2-3 jours avant, on annonce le procès, et on repasse le bobino de cette interview disant « je vais me suicider ».
Ce qu'on a entendu d'ailleurs au début de cette heure du crime.
Et le jour du procès, le premier jour du procès au mois de mai, je ne suis pas étonné quand, au moment d'aller vers la cour, de ramener mes dossiers, j'apprends qu'il a été retrouvé inconscient à proximité de l'aérodrome vers lequel il allait quand il était enfant et regardait les avions décoller. Et pour moi, c'est juste, je suis le patron. Vous ferez ce que je dirais, mais c'est aussi le patron qu'il était quand il était avec ses victimes.
C'est ça.
Où il va l'attacher, le prendre comme un gamin qui prend une mouche, si vous voulez.
Il fixe son calendrier, on en a parlé, hein, Jean-Luc Ployer, vous êtes d'accord là-dessus, hein, c'est lui qui dirige, hein, c'est le chef d'orchestre, c'est lui.
Oui, au niveau de la personnalité, Pierre Chanal, c'est absolument pas un dépressif au niveau du suicide. C'est ce que j'appelle des suicides d'opportunité, de toute puissance, plus exactement, d'orgueil. Hein. Ça n'a rien à voir.
C'est ça, il n'est pas complètement au bout du rouleau.
Je gagne.
Je gagne, c'est...
Oui. Même en mourant, je gagne.
Oui. Alors, je suppose qu'à cette époque, Maître Gérard Chemla, ce procès qui s'annonce, que vous attendez depuis des années, on a entendu ces familles qui vraiment sont au bout du rouleau, elles le disent, parce que ça a été trop long. C'est périlleux, hein, ce procès qui s'annonce.
Au mois de mai, il tente de se suicider. Je demande à ce qu'il soit placé en détention, sous un régime d'hospitalisation au départ, mais j'explique qu'il a tenté de fuir la justice, et c'est à la justice de s'assurer de lui. La cour d'assises décide de le placer en détention pour le juger au mois d'octobre suivant. Et on sait que le risque de suicide est patent. J'écris au procureur général en lui disant, maintenant, il est sous votre responsabilité, il vous appartient de veiller sur sa santé. Et donc des mesures vont être prises, et c'est là où on voit la bêtise et la folie des choses, des mesures vont être prises pour pas qu'il puisse se suicider, mais comme il est indigent, on va lui donner la trousse de toilette des indigents. On lui enlève son rasoir électrique pour pas qu'il se blesse avec.
Incroyable.
Mais on va lui donner des rasoirs mécaniques dont il va patiemment exclure les lames.
Les lames, bien sûr. Et on connaît la suite.
Et au premier soir de son procès.
On va raconter la suite tout de suite, évidemment, dans l'heure du crime. 5 mois plus tard, l'adjudant-chef est déclaré effectivement apte à être jugé. Mais que va-t-il se passer? Pierre Chanal, les ultimes confidences. Il m'a donné l'impression de ne plus être concerné par ce qui se passait. L'enquête aujourd'hui de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
What a cruel thing to pretend. What a cunning way to condescend. Once my lover, and now my friend. Oh, you creep up like the cloud. Set my soul at ease. Then you let your love abound, and you bring me to my knees. Oh, it's evil, babe, the way you let your grace enrapture me.
présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, le parcours de Pierre Chanal, l'adjudant-chef du camp de Mourmelon, soupçonné d'être derrière les disparitions et les meurtres de 8 jeunes gens entre 1980 et 1987, premier procès avorté en mai 2003, il comparaît 5 mois plus tard. Mardi 14 octobre 2003, le procès de Pierre Chanal, 56 ans, s'ouvre devant la cour d'assises de la Marne, à Reims. Les familles de victimes attendent avec un mélange de crainte et d'impatience l'apparition de l'adjudant-chef, l'autostoppeur rescapé. Le Hongrois Palas Falvé a été appelé à témoigner. Il est présent dans la salle d'audience. Chanal, lui, ne sera là que le lendemain. Après sa tentative de suicide, 5 mois auparavant, il a fait la grève de la faim. On l'a transféré en ambulance de la prison de Fresnes jusqu'au CHU de Reims. Il est sous bonne garde. Mercredi 15 octobre, une nouvelle spectaculaire se répand. Au cours de la nuit, Pierre Chanal s'est suicidé. À minuit 38, un policier a remarqué que le militaire avait la tête curieusement inclinée dans son lit. Un médecin, tout de suite appelé, a constaté que l'accusé avait 2 lames de rasoir entre les jambes. Il les avait sans doute cachées dans l'étiquette rigide de son pantalon de jogging. En slip et t-shirt, il s'est enroulé et a caché sous les couvertures. Il s'est tranché l'artère fémorale gauche entre 2 rondes de policiers. À minuit 30, un policier avait constaté que tout allait bien. 8 minutes plus tard, il était mort. Son avocat, Pierre Gonzalez de Gaspard, qui l'a visité la veille, dit l'avoir trouvé très faible, mais serein. Il m'a donné l'impression de ne plus être concerné par ce qui se passait. Gérard Chemla, qui défend des familles de victimes, dit ressentir beaucoup de tristesse. Les familles vont repartir de Reims avec l'idée que la justice n'existe pas pour elle. Et maître Gérard Chemla, il est justement avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, avocat au barreau de Reims, avocat des parties civiles. Évidemment, vous êtes au premier rang lors de ce procès qui est encore une fois très attendu par les familles de victimes. Il faut en parler de ces familles de victimes parce que elles ont vécu un enfer depuis des années. Elles étaient loin de tout, loin de la justice. Et la justice, là, elle a failli. Effectivement, Chanal s'est suicidé. C'est une catastrophe.
C'est en tous les cas un deuil terrible pour les familles. Il faut déjà préciser que seules 3 familles étaient concernées par le procès, mais toutes étaient venues et il était prévu qu'elles témoignent.
Elles voulaient voir et savoir.
Et j'avais décidé que nous ferions le procès de l'ensemble des disparitions, même s'ils n'étaient pas jugés pour la totalité. Et ce qui a été terrible, déjà il faut se dire que ce procès c'était pour nous l'Arlésienne. On en parlait, mais on avait l'impression qu'il ne se produirait jamais, il ne commencerait pas. Et là il avait commencé, on a eu une demi-journée de procès, et quand le matin on recommence l'audience, les personnes qui sont en deuil de Chanal, c'est en fait les familles qui se retrouvent à pleurer. C'est assez étonnant parce que sa sœur vient, elle semble, elle, plutôt rassurée et détendue, et nos clients sont totalement abattus avec la sensation qu'ils doivent maintenant faire le deuil de la justice, qu'ils n'auront jamais la vérité.
Alors vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait cette fameuse trousse de secours qu'on distribue aux indigents avec malheureusement ces lames de rasoir à l'intérieur donc qu'il a utilisées. Vous êtes furieux, vous aussi, maître Chanal, parce que vous aviez dit « attention, voilà. Il va se suicider ».
On l'avait anticipé et finalement on a l'impression que c'est le point final à une série d'erreurs, à une série d'incompétences, en tous les cas d'insuffisances, qui durent depuis tellement longtemps. Nous avions une chance d'aller au moins au bout de la justice, ça pouvait se terminer par un acquittement, mais au moins nous serions allés au bout des choses. Et là, tout s'arrête au premier jour, le soir du premier jour. Tout s'arrête et on a compris qu'il a gagné son procès puisqu'il meurt innocent, juridiquement innocent. C'est pour ça que quand on écrit notre bouquin, on l'appelle la justice impossible. Il n'aura jamais été possible d'obtenir la justice pour les familles des disparus.
Ah oui, c'est ça. Et ça, c'est terrifiant pour les familles qui sont là, qui sont venues. Il avait peur, je crois. Jean-Luc Ployer, un mot là-dessus. Parce qu'il va dire... son avocat va dire, maître Gonzalez de Gaspard, qui est disparu aujourd'hui, on salue sa mémoire.
Je vais rectifier, c'était André Buffard.
Ah, c'était André Buffard.
Parce qu'il avait eu Gonzalez. Il avait eu Gonzalez, mais c'était André Buffard.
D'accord, c'est André Buffard.
Pardon.
Mais c'est très bonne rectification, vous avez raison, mais Pierre González de Gaspard, lui, avait dit qu'effectivement, cet homme, il était verrouillé, etc. Est-ce qu'il aurait pu parler, à un moment donné, lors de son procès ?
Non, je crois pas du tout. Alors, au niveau des familles, c'est terrible, mais en même temps, c'est vraiment le profil des tueurs en série qu'on va découvrir après, en France, en tous les cas, hein, beaucoup plus précisément. La justice des hommes n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils sont tellement tout puissants qu'en définitive, ils ne rendent pas de compte. Et ce qui est terrible à entendre au niveau des familles et des parties civiles dans les procès d'assises, par rapport à ce type de personnage, c'est que les victimes ne sont pas des sujets. Ce sont des objets, essentiellement. Donc à ce moment-là, à partir du moment où... C'est redoutable en matière criminelle, si vous voulez. Mais à partir du moment où ils considèrent que ce sont des objets, il n'y a pas à avoir de culpabilité ni de regret, quel qu'il soit.
Et vous pensez que, avec votre regard, vous, de psychologue, et puis vous l'avez vu, Chanal, vous l'avez entendu, vous l'avez écouté, vous l'avez questionné,
oui,
qu'il n'aurait pas pu être sensible, en donné, il n'aurait pas... L'armure ne serait pas fissurée,
vous savez, moi, j'ai,
face aux familles.
J'ai essayé énormément, en deux heures et demie de temps, à Fresnes, hein, deux, trois mois avant son procès de Reims. J'y suis vraiment allé, hein, j'essaie d'entrer dans sa tête. C'est une forteresse imprenable.
C'est ça, il était complètement verrouillé, cadenassé, et
avec un regard, effectivement, vous parlez de ses yeux bleus perçants. La dernière fois que je l'ai vu, il était en fauteuil roulant, très très limité, très affaibli physiquement, mais le même regard. Quand je ferme les yeux maintenant, je revois ce regard.
Le regard était intact.
C'est terrible.
Il n'était pas touché par la faiblesse ou par cette grève de la faim qui pouvait l'emporter. Maître Gérard Chemla, ses avocats vont dire qu'il vivait très mal la confrontation avec Pallas Falvé, qui est là, à ce procès. Il est venu, il a été cité comme témoin, on va l'interroger. Est-ce que finalement, Chanal, c'était trop pour lui, cette espèce de miroir, parce que Falvé, il allait raconter?
Alors, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que Falvé, c'est la preuve de son homosexualité.
Ça.
Et ça, c'était absolument impossible pour lui de l'assumer publiquement. L'insulte qu'il utilisait contre les appelés, c'était « pédé rouge ». Les insultes homophobes, c'était véritablement quelque chose qui était important pour lui. Et le fait de venir dire, ou qu'on dise de lui, devant l'Assemblée, publiquement, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a les journalistes, il y a les familles, qu'il était homosexuel, c'était impossible.
Il ne pouvait pas supporter.
Hein, c'était... Et peut-être aussi le fait d'avoir été impuissant dans la relation sexuelle avec ce jeune homme.
Oui, parce qu'il savait que tout serait déballé, tout serait sous la table.
On parlait de la face immergée de l'iceberg, celle qui ne peut pas apparaître.
L'adjudant-chef ne sera jamais jugé, donc dans l'affaire de Mourmelon, un chapitre inachevé.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous explorons le parcours de Pierre Chanal. L'adjudant-chef était le suspect numéro 1 dans l'affaire des disparus de Mourmelon. 8 jeunes hommes tués entre 1980 et 1987. Il s'est suicidé en 2003 avant son procès. Enquête close, sans épilogue. Dans une lettre adressée la veille de son procès à la présidente de la cour d'assises de la Marne, Pierre Chanal avait expliqué son désir de se suicider, car à ses yeux, la partie était jouée d'avance. Chantal, sa sœur, avait commenté sa mort avec ces mots « C'est la justice qui l'a tuée, car elle n'avait plus personne. Personne ne l'a cru. La justice est coupable. Elle n'a pas fait son travail comme il faut. » Après une enquête longue de 23 ans, la succession de 10 juges d'instruction et le suicide de Chanal, le frère d'un disparu résumait ainsi l'affaire de Mourmelon comme un naufrage définitif de la justice.
Pierre Chanal, c'est quelqu'un qui veut absolument dominer les choses, qui veut absolument décider lui de ce qui se passe. Et la justice a accepté son jeu et a subi son chantage. C'est totalement ignoré ce qui a pu se passer. C'est tourner le dos et à ces personnes qui ont été assassinées et aux vivants qui restent là et qui essayent que la vérité soit connue.
La voix de Karine, la sœur de Patrice Denis, l'un des disparus de Mourmelon, c'était dans l'émission « Faites entrer l'accusé ». Maître Gérard Chemla, avocat au barreau de Reims et auteur de ce livre « Chanal, la justice impossible », écrit avec Maître Versant Duretête, et qui était paru en 2004 chez Michalon. C'est un livre qui fait le point justement sur cette affaire et sur ce mystère Chanal. Alors, Maître Gérard Chemla, il y a un point avec lequel vous êtes d'accord sûrement avec Chantal, la sœur de Chanal. c'est qu'effectivement, la justice n'a pas fait son travail comme il fallait.
Oui.
Et ça, c'est un désastre. On l'entend encore... vous avez entendu Karine, hein, la sœur de Patrice Denis.
On a d'ailleurs fait condamner la France à des dommages d'intérêt pour les fautes commises par le service public. Et si j'ai le temps, en deux secondes...
Allez-y.
Au lendemain de la mort de Chanal... il y a un jeune homme qui me téléphone pour me dire « Moi, mon frère, il a disparu en 1975 et il y en a un autre qui a disparu en 77 à Valdaon, à côté de Besançon, qui était l'affectation précédente de Chanal et c'était deux garçons qui étaient sous ses ordres. » Ça veut dire que la justice n'a même pas connecté les disparitions de Morbelon avec les disparitions de Valdaon et nous ferons la connexion au lendemain du suicide.
Mais ça, c'est étonnant, parce qu'il y a deux affaires, hein, je crois. C'est Michel Giannini et Aldo Tacchini, c'est bien ça. Quid de ces affaires? On ne sait pas.
Eh bien, une enquête a été lancée concernant ces affaires, mais personne n'a accepté que cette enquête soit reliée à l'enquête de Morbelon. Mmh. Et donc, nous ne le savions pas. Moi, je l'apprends quelques jours.
C'est incroyable, parce que...
C'est la même affaire.
C'est la même affaire, et ça veut dire que, finalement, Jean-Luc Ployer, je me tourne vers vous, vous êtes auteur de La Passion du Mal. Jean-Luc Ployer, vous l'avez écrit, ce livre, avec Mathieu Livorel, aux éditions Mon Poche, et vous avez expertisé Pierre Chanal, c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui, dans cette heure du crime. On ne sait pas tout de Chanal, finalement. Il a peut-être caché bien d'autres crimes.
Bien sûr. Ce d'autant qu'à l'époque, effectivement, la police scientifique était beaucoup moins organisée que maintenant. Donc il y a certainement encore des espaces criminels dans lesquels il a été l'auteur et que l'on ne connaît pas.
La notion d'ailleurs de tueur en série, à l'époque, elle n'existe pas.
Compte tenu maintenant,
c'est le premier tueur en série, finalement.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, compte tenu maintenant de mon expérience des tueurs en série,
ouais.
Je peux vous dire qu'il a absolument le profil type du tueur en série. Même mode opératoire, trait de personnalité, une problématique tout à fait intense autour de la sexualité. C'est ce qu'on observe absolument par rapport à la personnalité de tous les tueurs en série que j'ai pu voir.
Même s'il faut bien le répéter, Gérard Chemla, il est mort innocent, hein, vous nous l'avez dit.
Technique.
Pour le procès de Morbelon.
Ça ne nous empêchera pas de penser qu'il était coupable.
Les corps qu'on n'a pas retrouvés, on les a beaucoup cherchés, ces corps. Mais dans cette terre de Morbelon, c'est compliqué.
De Morbelon ou d'ailleurs. C'est-à-dire que il s'est attaqué dans un premier temps à des militaires, dans un deuxième temps à des autostoppeurs, et on peut penser que les autostoppeurs, notamment les étrangers, Trevor O'Keefe, Falvey Palace, on peut penser qu'il a fait des centaines de kilomètres avec eux et qu'ils peuvent être enterrés n'importe où. On trouvera peut-être par hasard un corps un jour, comme on a arrêté par hasard Chanal, peut-être pas. C'est quelqu'un qui avait l'habitude, dans ses formations commando, d'enterrer, de dissimuler ses traces. Eh bien, je ne sais pas si elles réapparaîtront jamais.
C'est un itinérant, comme Holm d'ailleurs, mais qui lui va à pied, Holm, et se déplace comme ça avec des trains et tout, comme Fourniret aussi, qui était un itinérant. Donc effectivement, là, on a
On va retrouver chez Fourniret et chez Chanal l'utilitaire, hein, le véhicule utilitaire dans lequel on peut tout faire.
Oui, c'est une signature, effectivement, qui est commune à ces deux hommes. Jean-Luc Ployer, vous avez été missionné, finalement, par Chanal, parce que ça, c'est étonnant, vous le racontez dans votre livre, moi, ça m'a beaucoup surpris. Vous dites que Chanal vous a dit « Allez voir la présidente du tribunal, vous lui dites de me relâcher, et là, peut-être, je m'exprimerai. »
Oui, c'est-à-dire que, à mon insu...
Une espèce de chantage, hein, quand même.
À mon insu, j'étais le porte-parole de Pierre Chanal. C'est quand même tout à fait particulier pour un expert...
Tout arrive.
...judiciaire, mais tout arrive, effectivement. Mais, effectivement, il voulait absolument ne plus être incarcéré, hein, mais être chez sa sœur, avec, effectivement, un véhicule dans le jardin de sa sœur, hein, pour attendre, effectivement, son procès. En disant, si elle accepte pas, de toute façon, je vais me suicider. J'ai écrit un mois avant son procès de Reims à la présidente de la cour d'assises.
En donnant cette réflexion.
Je lui ai indiqué
réflexion.
Qu'il allait se suicider, effectivement, et effectivement, il est passé à l'acte.
Gérard Chemla, je termine cette émission avec vous. Un sentiment de gâchis, quand même, pour les familles. Et pour vous, là, c'est une catastrophe.
Vous savez, c'est des jeunes gens. Ils avaient 18 ans à l'époque et j'avais à peu près le même âge qu'eux ou la même date de naissance. Moi, j'arrive à la fin de ma carrière ou pratiquement. On a des gens qui ont disparu, qui n'ont jamais eu de sépulture, qui ont été dans leur famille des trous noirs qui ont absorbé toute l'énergie. C'est un drame pour ces gens-là et pour leur famille.
Merci infiniment Maître Gérard Chemla et Jean-Luc Ployer d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef, justice.